bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel pour une nouvelle émission de Bonjour Jérusalem. Aujourd'hui, Elisabeth nous accompagne avec en régie Simon. Voilà. Alors, comment ça va Elisabeth aujourd'hui? Bonjour.
Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout va bien, Christine. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette nouvelle émission?
Oh, bah, écoutez, plein de bonnes choses. Peut-être pas toujours délicieuses à entendre, mais des choses très intéressantes. Vous vous souvenez, Elisabeth, que nous avions évoqué il y a quelques semaines le travail des Palestiniens en Cisjordanie et dans certaines entreprises israéliennes, hein, plus ou moins agricoles. Mmh. Eh bien, là, aujourd'hui, je voudrais vous parler des Israéliennes en change de camp dans le monde du travail.
Voilà. Bah oui, il faut être... Faut voir tout de tous les côtés.
Oui, voilà. Donc, comme
alors,
vous
effectivement, si je m'en souviens bien, on va pouvoir parler de ces Israéliens et des Palestiniens aussi en même temps, quand même.
Non seulement on parle pas des Palestiniens parce qu'on l'a fait la dernière fois, mais on parle surtout des Israéliennes, c'est-à-dire les femmes. Soyons solidaires avec les femmes du monde entier. Alors, comme vous l'avez compris, sans doute, Élie, le pourcentage des femmes qui sont en âge de travailler ou qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un emploi a bondi de 30 à 73% depuis 1967.
Donc en 50 ans,
c'est énorme.
Ça a plus que doublé. Hein.
Ouais. Alors qu'en revanche, le taux de participation de la main-d'œuvre masculine a lui diminué au cours de la même période, en passant de 87 à 80%, toujours selon des statistiques du Bureau central des statistiques, la CBS.
D'accord. Bon, bah, c'est vrai que le chômage est mondial, donc enfin bref, ça se comprend un petit peu. Et alors, mais enfin, ça a certainement une cause, alors c'est laquelle?
Eh bien, c'est tout simplement que beaucoup de femmes ont rejoint la population active pour des tas de raisons qui sont aussi bien économiques que par cause de guerre, quand il n'y a plus d'hommes à la maison.
Oui, il faut bien, on a connu ça en Europe, bien sûr, à une époque. Ont-elles le même salaire que les hommes?
Ah ben non, pas du tout. Hein.
Voilà. J'ai pas osé poser la question, mais il faut, je m'y attendais.
On est dans la même mouvance que les salaires en Europe. Enfin, un petit peu, je vais pas dénigrer la France quand même. Mais c'est vrai que leur salaire est quand même inférieur d'un tiers à celui des hommes. Par exemple, une femme, elle gagne en moyenne 7 439 shekels. Alors, convertie, ça donne 1 700 euros par mois. Alors qu'un homme, lui, va toucher 11 114 shekel, ce qui donne 2600 euros.
Alors, mais c'est génial, il faut aller travailler là-bas. Qu'est-ce qu'il gagne ici en moyenne?
Ce sont toujours des statistiques de la CBS, hein, du Bureau central.
Hein. Ça me paraît énorme, là, comme salaire, c'est merveilleux. Bon, enfin bref, mais il y a quand même un grand écart.
Ah oui, c'est énorme, hein, cet écart de rémunération entre les hommes et les femmes, surtout qui est placé. On sait qu'Israël est placé le quatrième plus important en termes d'importance parmi les pays appartenant à l'Organisation de coopération et de développement économique,
OCDE,
et qu'il est en partie dû au nombre d'heures travaillées par les femmes, qui est de 36,7 heures par semaine pour 45,2 heures pour les hommes. Alors, ça explique peut-être l'écart pourquoi entre les deux.
Mais si on calcule l'écart en pourcentage, celui est quand même de 16,3%.
Oui, bien sûr, mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, là,
ça a changé, mais bon,
on ne va pas se plaindre non plus,
Non, non, non.
Alors, toujours selon les spécialistes, les femmes travaillent en fait de façon plus ou moins disproportionnée dans des emplois peu rémunérés et souvent dans des professions qui sont tenues pour traditionnelles pour les femmes.
Ah oui, d'accord, féminines. Voilà. D'accord, ça ne plairait peut-être pas trop aux féministes, notre terme. Alors, dans quel secteur trouve-t-on plus ou moins les femmes alors?
Alors, dans des sociétés de l'indice TA100 de la Bourse de Tel Aviv, alors là, c'est le mystère, hein, je ne vais pas vous expliquer ce que veut dire le TA100, les femmes y sont sous-représentées et seulement un cinquième des cadres supérieurs et seulement 5 des 94 chefs de conseil d'administration de ces dites sociétés sont des femmes. Mmh. Il faut aussi savoir que dans les entreprises qui appartiennent à l'État, les femmes sont, elles, mieux représentées au sein des conseils.
Alors, quel est donc le secteur le mieux payé pour les femmes?
Ah ben justement, c'est le secteur de la haute technologie.
Normal, où les femmes sont intelligentes.
Elles sont... où les femmes sont sous-représentées, mais pourtant mieux payées. En fait, près d'un tiers de ces femmes israéliennes sont dans des professions traditionnellement féminines. Alors, ce qu'on appelle le ghetto rose, hein, ce sont les services de soins de santé à domicile, l'enseignement à l'école élémentaire, les ventes au détail et la comptabilité. Mmh. C'est ce qu'ils appellent là-bas le ghetto rose. Et ils emploient encore des mots.
Je ne sais pas comment faut-il prendre leur terme. On ne va pas s'en vexer, n'est-ce pas ? Alors, existe-t-il un écart de rémunération entre les femmes chrétiennes et musulmanes d'Israël ? Et ou bien, est-ce que c'est plus petit pour les homologues masculins que l'écart entre les hommes et les femmes juives israéliens ? C'est un peu compliqué, là, que je vous pose comme question.
Oui, mais vous avez remarqué que c'est entre les femmes chrétiennes ou musulmanes.
Musulmanes, hein, oui, c'est ça. Oui, non,
et on fait l'écart avec les homologues masculins. Voilà. Alors, mais en fait, c'est sur une base horaire. Hein, les femmes chrétiennes et musulmanes gagneraient un peu plus que les hommes des mêmes communautés, principalement parce qu'elles ont tendance à être plus instruites. En fait, ces femmes ont une moyenne de 13,7 années d'université, alors que les hommes ont eu seulement 12 années d'études.
D'accord. Ben, c'est bien intéressant.
Ils vont descendre de leur piédestal.
Oui, absolument. Mais visiblement, les femmes juives sont moins instruites que les musulmanes ou les chrétiennes. Hein. Mm. Enfin bon, c'est intéressant. Et si vous voulez bien, Christine, nous allons passer peut-être à une autre nouvelle qui est, j'espère, tout aussi intéressante. Que les écarts des salaires. Enfin, c'est bon à savoir.
Ça n'a rien à voir avec... Mais on va se rapprocher peut-être des écarts de salaire. Hein.
Ah, quand même,
enfin, du monde du travail. En fait, on a parlé il y a quelques semaines, je crois, d'un fameux gazoduc qui serait en construction entre
Israël et
et la Jordanie, qui, lui, normalement, devait être ouvert en 2017.
Il y a quelques mois déjà qu'on en avait parlé. Et alors, comment ça se passe actuellement? Alors, quel est le résultat?
Oui, alors vous vous souvenez qu'ils avaient...
Ah oui, comment ça s'appelait déjà?
Mais vous ne l'avez pas retenu?
Oh non.
Oh, Léviathan et Tamar.
Ah, voilà, c'est ça.
Vous voyez bien que vous suivez l'actualité
je ne retiens pas tout, malheureusement. Enfin bon.
Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, c'est une réalité, bien sûr. Hein, ces gisements qui sont situés dans la région de la Mer Morte, au large des côtes nord d'Israël. On sait que leur découverte a suscité un grand espoir dans un pays jusqu'alors sans ressources naturelles. Découvert en 2009, Tamar, donc c'est le fameux, le premier gisement, 250 milliards de mètres cubes. C'est beaucoup, a été mis en service dès 2013. Le Léviathan, le deuxième, lui, était censé produire 535 milliards de mètres cubes, découvert en 2010. Hein, c'est le gisement le plus important découvert depuis 10 ans dans le monde.
C'est vraiment énorme. Hein. Ça donne des perspectives de l'acquisition de ressources naturelles fantastiques.
Oui, effectivement, car le pipeline actuellement en construction dans la région de Sodome fournira du gaz à partir du réservoir de Tamar à des clients privés en Jordanie. Un second pipeline sera construit, lui, dans la région de Beth Shean, et il fournira du gaz à partir du réservoir Léviathan à la société jordanienne, qui s'appelle National Electric Power, NEPCO.
Alors, j'ai retenu, effectivement, que la valeur du contrat estimée à plus de 15 milliards de dollars et que les discussions étaient bloquées, parce que ça aurait été fantastique. Alors, pourquoi c'est bloqué?
Eh bien, ces derniers mois en Israël, des milliers de manifestants ont exhorté le gouvernement israélien, à nationaliser les champs gaziers en affirmant que même si le gouvernement a fixé un prix plafond sur le gaz naturel, le monopole, lui, pourrait maintenir les coûts élevés quand le prix mondial du gaz naturel est en baisse.
Eh oui, exactement. Alors, qui contrôle au fait ces deux gisements?
Ce sont deux entreprises, Noble Energy et Delek Group, qui contrôlent ces fameux gisements et avec les deux champs de gaz naturel. Et alors, les manifestants craignent qu'une grande partie du gaz dans les 10 ans de contrat souscrit avec l'État d'Israël laisse ce pays avec de très maigres réserves et des bénéfices de forage très minimes.
Alors, les négociations ont repris quand même ou pas?
Pas vraiment, puisque en termes d'affaires, la Jordanie est un marché évident pour le gaz israélien et les distances de pipeline sont très courtes. Hein. vu la distance des deux pays. Mm-hmm. Les liens potentiels entre le réseau de gazoducs israéliens et la Jordanie sont mesurés, vous voyez, en quelques dizaines de kilomètres. Mm-hmm. Donc évidemment, la construction risque d'être beaucoup plus chère que le gaz en lui-même qui sera produit et vendu. Alors, la seule difficulté, bien sûr, est la signature du contrat final qui est due aux deux problèmes principaux, les questions légales en Israël et les mauvaises relations entre Israël et le royaume hachémite.
D'accord, mais c'est bien dommage, car cela affecte bien évidemment les relations entre Israël et la Jordanie, surtout quand on sait que la coopération énergétique peut renforcer les liens politiques entre Israël et la Jordanie et aider à apporter un minimum de stabilité dans une région bien troublée.
Voilà, Elie, nous allons faire une petite pause musicale et puis on reviendra vers nos auditeurs pour poursuivre cette émission.
Sur un autre sujet.
Alors, nous revoici sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les âmes, et on va vous parler, donc toujours avec Simon en régie et Elisabeth à mes côtés, et là je voudrais vous parler du fameux mur occidental, ou le mur des lamentations, ou alors appelé également et communément Kotel.
Le Kotel. Alors, c'est le mur des prières des Juifs, tout à fait.
Tout à fait,
on connaît bien, même quand on n'y est jamais allé.
Mmh. Ah bon ?
Non, je n'ai pas eu cette chance.
Ah, moi, j'y suis allée. J'ai même mis mon petit mot dans une
lettre. Qu'avez-vous demandé ?
Non, pas grand-chose. Mais vraiment, j'ai mis... Et c'est assez impressionnant et très émouvant.
Moi,
comme,
j'imagine, oui, je vois ça.
Mais à l'époque, il n'y avait pas ce fameux mur de séparation entre les femmes et les hommes. Alors. On va y venir, d'ailleurs.
D'accord.
Voilà. Alors, en avril de l'année dernière, pour la toute première fois, les femmes du mur, qu'on appelle les femmes qui font les prières, mais qui ne le font pas devant le mur, brandissaient des rouleaux de la Torah de taille normale devant le Kotel. Elles se sont réunies, donc, malgré le froid, pour protester.
Alors, elles protestaient pourquoi ?
Eh bien, en fait, depuis la signature par le gouvernement israélien le 31 janvier, un accord historique planifiait, comme je vous le disais à l'instant, la création d'un espace de prière mixte au mur occidental.
Et alors ? Elles déchantent maintenant ?
Oui, elles peuvent déchanter, les pauvres. Et c'est normal qu'elles déchantent, puisque le plan prévoyait la construction d'une plateforme dans une partie non aménagée du mur occidental, lieu accessible qui est le plus sacré du judaïsme. Et en fait, cette plateforme devait accueillir un espace de prière mixte au-dessus d'un site archéologique afin de permettre aux juifs non orthodoxes de prier comme ils l'entendaient.
C'est quand même bien compliqué, je trouve. Et pourquoi ces juifs non orthodoxes ne pouvaient prier comme ils le voulaient ?
Eh bien, parce que le Kotel, étant sous administration ultra-orthodoxe, vous savez bien qu'il y a trois religions qui président, avec des normes strictes, ce plan pour le nouvel site reconnaît pour la première fois les branches libérales du judaïsme, réformes et conservateurs, qui avaient d'ailleurs eu l'aval de Netanyahou, le président.
Oui, c'est ça. Donc, une aube nouvelle s'annonçait pour les femmes.
Eh bien oui, puisque c'est les Women of the Wall, comme on les appelle là-bas, qui est un groupe constitué et qui est l'artisan principal du compromis, avait obtenu la promesse de la mise en place, d'un nouvel espace de 900 mètres carrés face à la partie sud du mur occidental. Mais évidemment, c'était sans compter sur leurs opposants historiques.
Et alors, qui sont-ils?
Eh bien, ce sont justement les fameux ultra-orthodoxes, hein, pour l'essentiel, qui jugent leur façon de prier trop hérétique.
Ça me fait presque... Bon, pourquoi donc? Ça me fait presque rire.
Pourquoi? Tout simplement parce que ces femmes du mur revêtent des accessoires traditionnellement portés par des hommes. Hein, on parle du talit, le châle de prière, la kippa, mais aussi les fameux tefillings, les lanières noires qu'on enroule autour du front et des bras. Et fait encore plus grave, le 10 mars dernier, c'est-à-dire de la même année, hein, 2016, elles ont réussi à apporter un rouleau de Torah dans la section des femmes, alors que les ultra-orthodoxes l'interdisent formellement.
Alors, comment ça s'est terminé? L'affaire est allée jusqu'à justice?
Oui, bien sûr, hein, puisque si on remonte un peu dans le temps, c'est-à-dire en 2013, un juge de la cour de Jérusalem avait énoncé qu'aussi longtemps qu'il n'y aurait pas d'espace de prière pour les fidèles suivant un autre rite que l'ultra-orthodoxie, ces derniers devaient être autorisés à prier comme ils l'entendaient.
Alors, ce qui fait donc qu'elles ont le droit d'accéder à la section de femmes des murs, non?
Tout à fait, oui. À partir du moment où elles respectent les traditions, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était sans compter également sur les forces de l'ordre qui les en ont empêchées. Et elles ont été effectivement insultées par les autres fidèles. Alors, en attendant la construction du nouveau site, de cette partie mixte du mur, les Women of the Wall continuent à prier dans la section réservée aux femmes, c'est-à-dire très tôt le matin.
Je crois qu'il faudrait faire une révolution. Alors, cette situation risque de durer encore longtemps?
Je ne sais pas, on pourrait effectivement le penser, car depuis 1967, l'esplanade face au mur est administrée par des ultra-orthodoxes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui en ont fait de facto la synagogue et la mise en place de la nouvelle section au sud du mur, qui est loin de faire l'unanimité. Et en fait, des blocages semblent s'élever de toutes parts, faisant traîner le processus juridique.
C'est une partie du lieu saint qui est profanée alors, comme le laissent croire les ultra-orthodoxes.
Ouais, si on veut toujours remonter dans le temps, il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, les hommes et les femmes juifs priaient côte à côte. On se rappellera que sous le mandat britannique, certains juifs avaient tenté d'élever une séparation, mais elle avait été vite retirée par les forces de l'ordre. Et pendant la période du contrôle jordanien, les Israéliens qui ne pouvaient pas se rendre au mur et en 1967 ont repris le contrôle de la zone.
Ah voilà. Et depuis, qui dirige ce lieu saint alors, Christine?
Alors, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que j'ai assisté une fois, c'est à l'ouverture et la fermeture du site, c'est la juridiction du ministère des Affaires religieuses qui en a la main mise, grâce à des ultra-orthodoxes qui sont allergiques au compromis avec les autres courants du judaïsme. Alors, ce qui fait qu'en février dernier, le grand rabbinat a déclaré le nouveau site de prière illégal en fondant son avis sur une opinion légale, affirmant que seul le ministre des Affaires religieuses, c'est-à-dire lui, a l'autorité pour désigner un nouveau lieu saint en Israël. C'est le serpent qui se met en la queue.
Absolument, mais en entendant tout ça, on a l'impression que le fait qu'ils se battent avec les Palestiniens depuis si longtemps n'a rien d'étonnant. Donc, si je vous suis bien, Christine, quand vous le dites un peu plus haut, la mainmise étant du fait des ultra-orthodoxes. Et ce ne peut être que l'un d'entre eux.
C'est ce que je viens de dire au-dessus.
Alors, effectivement.
Voilà. Vous avez deviné, Elie, en l'occurrence, ce fameux ministre qui s'appelle David Azoulay est affilié aux ultra-orthodoxes. Ah. Et il a donc refusé de signer le plan pour ce fameux mur, alors que le délai expirait au 1er mars et qu'il n'a rien fait pour avancer dans les...
J'allais dire que nous avons aussi un ministre qui s'appelle Azoulay. Il ne pourrait pas le convaincre, son cousin, que ça est un peu mieux. Bon, alors, on a bien compris que ces tergiversations sur un éventuel accord sont le signe d'une crise entre les courants ultra-orthodoxes, mais aussi entre eux et le reste des Juifs, le rêve des Juifs libéraux, d'un mur pour le peuple, pourquoi pas? Ouais, ça paraît assez loin, j'ai l'impression.
C'est presque une utopie maintenant, on va dire. Hein.
Je suis une optimiste, alors.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas fini, car quand les femmes du mur en auront fini avec les tensions internes au judaïsme, elles n'auront plus que deux opposants qui n'en sont pas moins hostiles. Hein. Les archéologues, qui estiment que cet aménagement pourrait nuire aux fouilles qu'ils espèrent encore conduire, et le dernier, mais non le moindre, le fameux Waqf musulman et l'autorité palestinienne, qui ont déjà déclaré que ce prolongement du mur occidental serait une violation du fragile statu quo de ce lien, de ce lieu saint, toujours prêt à s'enflammer.
Hélas. Alors, avant de revenir peut-être sur un autre sujet, j'aimerais vous proposer une petite musique pour changer des idées et s'éloigner de ces orthodoxes difficilement supportables pour une femme de nos jours. Effectivement, avant de revenir...
C'est un combat toujours, que mènent les... Voilà.
Toujours bon. Sur Radio Grand Ciel. Oh,
ouais. On va rappeler que c'est un combat que mènent les, voilà. Femmes, les femmes juives de là-bas. Absolument. C'est notre combat par...
On les aide comme ça.
Virtuellement.
Hein, exactement. Voilà. Radio Grand Ciel, bonjour Jérusalem, est le nom de notre émission, que Christine dirige demain maître. Alors, quel est votre autre sujet que vous allez nous évoquer après avoir parlé d'autres choses dans les deux premières parties?
Oui, alors je voudrais quand même rester dans le même sujet, mais c'est une autre problématique hein, qui va être soulevée ici. C'est toujours à propos de ce mur.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là? C'est encore ces pauvres femmes qui sont chassées.
Non, mais là, on a une toute autre nouveauté. C'est des découvertes archéologiques qui semblent révéler que la construction du mur occidental du Second Temple à Jérusalem aurait été achevée bien après la mort du célèbre roi de Judée. En effet, jusqu'à présent, il était admis que le site qu'on appelle le mont du Temple pour les Juifs, l'esplanade des mosquées pour les musulmans, avait été entièrement construit par Hérode, hein, le fameux roi des Juifs.
Mmh. Alors, un petit rappel sur le règne d'Hérode, peut-être, Christine ?
Oui, on va survoler donc en quelques mots, mais c'était pour mieux le comprendre, cette polémique. Hein. Je vous rappelle qu'installé sur le trône par les Romains, Hérode règne sur la Judée de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en l'an 4 après Jésus-Christ. Dans la tradition chrétienne, Hérode est avant tout connu pour avoir tenté de tuer l'enfant Jésus en ordonnant la mise à mort de tous les enfants de Bethléem qui étaient âgés de moins de 2 ans. Hein.
Et oui, et aussi comme compatisseur quand même, parce qu'il se lance de très gros travaux et en recourant aux techniques romaines.
Oui, tout à fait. Il y a 40 autres constructions réalisées par lui. On signalera l'expansion du Second Temple, complexe religieux juif construit au 6e siècle avant Jésus-Christ sur l'emplacement du premier temple qui avait été détruit, lui, par Nabuchodonosor II en 587 avant Jésus-Christ.
Alors, ce que l'on appelle communément le mur des Lamentations est un principal lieu saint du judaïsme, est considéré comme étant le mur occidental restant du Second Temple.
Oui.
Et qui sert également de soubassement à l'esplanade des mosquées, le noble sanctuaire des musulmans.
Exact.
C'est inséparable tout ça, c'est pas possible.
Comment ?
On ne peut pas les séparer tout ça.
Ben c'est impossible, bien sûr. Et tout à fait exact. Mais alors, c'est vrai que les archéologues qui travaillent pour l'autorité des antiquités Israël ont annoncé récemment que des fouilles sous les fondations en pierre du mur avaient permis de mettre au jour des pièces frappées par un procurateur romain de Judée 20 ans après la mort d'Hérode. On en déduit donc qu'Hérode n'avait pas construit le mur des Lamentations.
Ah, alors 4. ont-elles réellement trouvé ces archéologues au cours des fouilles?
Eh bien, c'est tout simple. Hein. Ce sont généralement ce qu'on trouve en premier, ce sont des pièces de bronze frappées aux alentours de l'an 17 après Jésus-Christ par Valerius Gratus, qui a précédé Ponce Pilate en tant que représentant de Rome à Jérusalem. Mmh. Hein, comme le précise d'ailleurs Ronny Resch de l'université d'Haïfa, qui est l'un des deux archéologues en charge des fouilles, ces pièces ont été découvertes dans un bain rituel qui était antérieur à la construction du complexe du temple d'Hérode et qui avait été comblé, donc ce bain rituel à l'époque pour soutenir les nouveaux murs.
Alors peut-on considérer ces trouvailles comme antérieures à Hérode alors?
Ben, on peut en déduire que si Hérode a bien mis en route l'extension du second temple, les pièces démontre que cette fameuse construction du mur des occidentales n'avait même pas commencé avant sa mort et qu'il a été probablement achevée des générations plus tard. En fait, et de plus, cette découverte viendrait confirmer un récit de Flavius Joseph, historien romain du 1er siècle, bien connu et qui a beaucoup voyagé, qui souligne qu'après la destruction du second temple par Rome en 70 après Jésus-Christ, les travaux du mont du temple n'avaient été terminés que par le roi Agrippa II, qui était l'arrière-petit-fils d'Hérode.
Voilà, évidemment, cette affirmation a de quoi surprendre un peu quand même. Hein.
Évidemment, puisque Flavius Joseph explique également que la fin du chantier aurait laissé 18 000 travailleurs sans emploi, ce qui, selon les historiens, est à mettre en relation avec l'éclatement de la grande révolte des Juifs de la province de Judée contre l'Empire romain en 66 après Jésus-Christ. Vous vous souviendrez des frères Maccabées.
Oui, absolument.
Voilà. Maintenant, contrôlée depuis 1967 par Israël, l'enceinte qui abrite la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du rocher, sanctuaire musulman à la coupole dorée, eh bien, la cohabitation est difficile avec le mur occidental.
Ah, voilà, ça c'est vrai, on comprend mieux. Alors, nous suivrons avec intérêt ce nouvel épisode de la vie jérusalemite, n'est-ce pas, Christine?
Oui, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant de suivre c'est ce genre de situation.
Alors, il y a un autre sujet peut-être.
Oui, il y a un autre sujet.
Peut-être un peu plus amusant.
Oui, bah oui, pour finir au moins l'émission, qu'on s'amuse un petit peu, quoi que ce soit un petit peu ludique. Voilà, c'est à propos des manuscrits d'Amermote. Hein. Tout le monde connaît l'histoire de la trouvaille des manuscrits d'Amermote qui ont été découverts. Et voilà, les informaticiens et des spécialistes se sont lancés dans un nouveau projet. En fait, c'est tout simplement un travail énorme qui va se mettre en route, c'est la numérisation des parchemins et des fragments des fameux papyrus de Qumran. Concrètement, en fait, il s'agit de rassembler numériquement, vous imaginez le travail, quelques milliers de fragments âgés de 2000 ans.
En tout cas, c'est un travail titanesque que de rassembler tous ces fragments, mais en même temps, tout très encourageant et donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui rêvent de voir ça, ne serait-ce que...
C'est tout à fait énorme et c'est un projet, surtout en collaboration avec les scientifiques et les chercheurs. Et ce travail permettra effectivement à tous les chercheurs du monde entier qui ne sont pas sur place de travailler ensemble et en même temps sur un espace de travail virtuel, pratique, pour réunir ces milliers de fragments. Je crois qu'il va y avoir loin de plus de 10 000 ou quelque chose comme ça.
C'est énorme. Hein. En tout cas, c'est une magnifique initiative pour la compréhension de l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle.
Et oui, c'est énorme, ça va être quelque chose de grandiose, mais voilà. Donc, on sait déjà qu'à ce jour, les fragments numérisés s'élèvent à 16 000 sur les quelques 20 000 recensés, découverts il y a déjà 70 ans.
Alors, j'imagine que ce projet et les derniers développements technologiques permettront une étude tout à fait approfondie de ces parchemins.
Tout à fait, sans aucun doute, puisque une analyse plus innovante et l'ouverture de nouvelles perspectives sur ces manuscrits millénaires va en permettre justement une étude plus poussée et qui sera dédiée donc à l'humanité. On peut dire que c'est quelque chose d'énorme pour l'avancement de l'humanité.
En tout cas, merci Christine de nous avoir encore appris plein de choses très intéressantes et nous reviendrons très certainement sur ce nouveau projet ultérieurement pour suivre l'évolution. Et comme l'heure avance, il faut qu'on termine et qu'on vous dise au revoir. Vous étiez sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, n'est-ce pas? On va se retrouver bientôt.
Tout à fait. Au revoir, Christine. Au revoir, Elisabeth. Merci.
Merci beaucoup.